BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurence Tuvanard, bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Vous êtes donc coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis vous êtes directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Vous êtes une des meilleures spécialistes. Vous avez travaillé sur la Convention de l'accord de Paris. Vous êtes une des personnalités très fortes dans tout ce qui est transition écologique. Laurence Tuvanard, 150 personnes, 149 propositions. On les a tous beaucoup commentées depuis que vous les avez rendues, vous les avez remis à Elisabeth Borne. On attend la réaction ensuite du chef de l'État. Vous le rencontrez quand, le chef de l'État ?
Lundi 29 juin, au matin.
Au matin. Vous en attendez quoi ?
J'en attends, au fond, autant de sérieux du point de vue du gouvernement que ce que les citoyens ont manifesté, finalement. Parce qu'au fond, ces personnes qui venaient de tous bords, certainement de toute conviction politique, on leur a en tout cas pas demandé lesquelles elles professaient, des aides-soignantes aux pompiers en passant par des chefs d'entreprise ou des médecins, ont travaillé très sérieusement par rapport à un problème, se sont rendus compte que les mesures existantes, les lois existantes en France, on le sait d'ailleurs, moi qui participe au Haut Conseil pour le climat, on voit que ça ne donne pas les résultats qu'on compte, sur lesquels on compte, et donc on était dans une impasse. C'était d'ailleurs la lettre de mission que Édouard Philippe avait confiée à ses citoyens. Et ils ont travaillé sérieusement sur tous les domaines. Et là où finalement, d'ailleurs, un peu, avec un peu le côté technocratique qui nous caractérise parfois, on voulait, Thierry Pech et moi-même, trouver 12 grandes mesures, ils nous en ont donné 150. Mmh. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils pensent qu'il faut toucher tous les domaines de l'économie, du transport à la nourriture, de l'habitat à la publicité, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qu'au fond, c'est un ensemble de choses, et on le voit, le changement climatique touche tous les secteurs, et il faut certainement une approche transversale.
Puisque je disais, vous êtes sans doute une des meilleures, il y en a d'autres évidemment, mais enfin, vous êtes une des meilleures expertes sur toutes ces questions-là, vous avez beaucoup travaillé, je veux dire, vous êtes quelqu'un de sérieux, Laurence, qui maintenant veut au moins dire ça. Qu'est-ce que ces citoyens qui parfois ont dit des absurdités comme le nucléaire, le nucléaire est une énergie la plus carbonée, on sait bien que c'est l'inverse, après il y a tous les défauts du nucléaire, mais en tous les cas il n'y a pas celui-là, qu'il fallait travailler 28 heures, payer 35. Il y a eu, qu'est-ce qu'ils vous ont à vous apporté, ces citoyens tirés au sort, mais qui s'étaient inscrits sur le site?
Non, pas du tout.
Ils avaient dit qu'ils voulaient, et à ce moment-là, on les avait tirés au sort.
Non, c'était l'inverse. Il y a eu plus de 150 000 appels à des gens qu'on ne connaissait pas.
Et après, on les a tirés au sort, non ?
Donc, il y a eu des appels téléphoniques. Ouais. On leur a demandé à ces 150 000 s'ils étaient intéressés ou pas. Et puis, donc, c'était ça, le tirage au sort. Ouais. Et après, on a réduit l'échantillon en fonction de la représentativité. Il nous fallait un peu plus de femmes que d'hommes, la population française, 25% de non-diplômés, très difficile, des agriculteurs, des chefs d'entreprise. Donc voilà pourquoi. Donc c'était un vrai tirage au sort dans les règles, comme l'a fait l'Irlande avec son référendum, enfin son convention citoyenne et son référendum sur l'avortement. Ouais. Donc là, des citoyens lambda.
D'accord.
Qu'est-ce qu'ils m'ont appris à moi ? Pas des certaines choses de bon sens sur lesquelles je vais revenir. Mais beaucoup, au fond, vous savez, quand on est, même si on est un bon spécialiste, on est sérieux, on est quand même dans une bulle. On parle à des gens, des experts, des gouvernements, d'autres experts, des associations, enfin que sais-je. Et c'est, au fond, moi j'avais besoin, et j'y étais pour ça, j'avais deux hypothèses. Un, si j'écoute les gens qui n'y connaissent rien, bien sûr qu'ils vont se former parce qu'ils vont travailler pendant... C'est pas le café du commerce, c'était un débat informé, préparé, ils ont entendu plus de 130 experts, venant en grande partie d'ailleurs du monde de l'entreprise, et heureusement. Et c'est... qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre ? Ben, au fond, qu'est-ce que les gens ont dans la tête ? On fait des hypothèses sur la société. La société voudra, ne voudra pas, il faudrait faire ceci, faire cela. Mais tout de même, puisque ce changement climatique implique des changements très profonds dans l'économie, dans les modes de vie, dans beaucoup de choses, il faut écouter ce que les gens sont prêts à faire ou comment ils prennent le problème. Première leçon, une leçon de bon sens. Par exemple, vous, comme économiste, et moi la première, on a toujours plaidé pour avoir une taxe carbone. Pour des tas de raisons conjoncturelles, d'ailleurs, sur le plan politique, les citoyens étaient pris à froid par cela, en grande partie aussi, parce que, au fond, ils avaient l'impression que le gouvernement leur demandait de fixer le niveau de la taxe, alors que ça avait évidemment rempli les rues en colère. Mais ils ont dit, la fiscalité, c'est très important, il faut un signal prix, mais spécifions-le. Alors, ce n'est pas des économistes, ce n'est pas des spécialistes, on ne leur demandait pas ça. Par exemple, un malus sur les plus grosses voitures, mais pour les familles nombreuses, il ne faut pas le malus, le plus gros malus sur les voitures. Ouais. C'est bon sens. L'agriculture, c'est bien d'avoir accès à de l'alimentation saine et notamment aux produits bio. C'est trop cher. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour les ménages les plus modestes, eh ben, il nous faudrait des chèques alimentaires pour de la bonne nourriture et pas pour n'importe quoi. C'est des raisonnements comme ça que j'ai trouvé les solutions techniques qui proposent la rénovation des bâtiments, la progression vers les transports zéro carbone, l'abandon quand c'est possible de la voiture individuelle, enfin toutes sortes de choses que les experts répètent depuis des années. Mais ils disent à quelles conditions ça nous paraît bien de le faire. Sur la taxe carbone, qu'est-ce qu'ils ont dit au début? À la limite, oui, mais à condition que le trafic aérien le paye aussi. Il n'y a pas de raison que les gens qui voyagent en avion ne payent pas la taxe carbone alors que les automobilistes ou les maisons. Donc, le bon sens, à partir de propositions qui étaient déjà sur la table.
Alors, forcément, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que c'est intéressant, parce qu'en plus, on a beaucoup parlé de ça depuis 3 jours. Donc, je pense qu'il y a un niveau d'information assez suffisant. Mais par exemple, la question des 110 km sur les autoroutes. Bon, en plus, bon, ça a un coût. J'ai regardé toute une étude qui a été faite, mais enfin, c'est même pas la question. C'est ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue, c'est le fait de baisser à 80 km/h.
Je ne suis pas d'accord.
Bon, je vais un tout petit peu rapidement, mais c'est quand même ça. On voit bien que les Français, une partie des Français qui n'habitent pas dans les grandes villes sont largement contre. Alors,
sur ce 110, je suis ravie que vous me posiez la question.
Oui, parce qu'on est tous concernés.
D'abord, parce que c'est la mesure qui a été la plus clivante. Vous avez vu que tout le monde s'est ému sur les 28 heures. En fait, ils voulaient poser le problème et vous avez vu, ils ont voté une très large majorité.
Absolument.
Sur ce 110 km/h qui a posé beaucoup de débats. C'est d'ailleurs, c'était intéressant, c'est un professeur d'auto-école qui l'a proposé, hein, quelqu'un du milieu. Quand on regarde les chiffres, sur les 40 millions d'automobilistes, il y a moins de 25 000 véhicules chaque jour qui empruntent les autoroutes. Pourquoi? Tout simplement parce que les autoroutes sont payantes. Et donc, le 80 km ou le 90 sur les routes nationales, ça, c'est les trajets du quotidien. Les gens ne vont pas travailler en utilisant l'autoroute, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est cher. Donc, c'est pas le même débat.
Ça dépend.
C'est pas le même débat. Et donc, effectivement, on perd 4 minutes tous les 100 km si on passe de 130 à 110. Ce qui n'est pas une mesure horriblement révolutionnaire. Le Royaume-Uni, c'est 110 km à l'heure. Oui, la Californie, c'est
105. En Allemagne, c'est un peu notre référence, c'est 150.
Ça dépend.
Oui, ça dépend où. Enfin,
c'est très varié. Oui. Et il y a du 110, du 120, du 130. Il n'y a aussi pas de limitation sur ça. Donc, c'est un problème. Certainement pas un problème passionnel. Et en tout cas, l'autoroute, ça n'a pas la même signification sociale que la route. Non, certainement pas. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui l'empruntent, très largement. C'est les routiers. Et très intéressant sur la taxe carbone aussi, je reviens sur les routiers. Ils ont voulu diminuer la taxe à l'essieu parce qu'ils pensaient que ça ne pénalisait que les poids lourds français. Alors qu'ils voulaient une taxe carbone sur tout le système routier. Je trouve ça raisonnable. Donc, j'espère qu'on va regarder ces mesures en regardant les détails et ne pas en prendre une ou l'autre. Et le 110 me paraît pas la plus... C'est pas la moins significative du point de vue de la réduction des émissions. Ça économise quand même beaucoup de millions de tonnes de carbone.
Oui, mais il y a un coût économique qui a été fait par un rapport, par un comité qui dépend justement du ministère de la Transition écologique.
Le CGDD, absolument.
Et qui montre que ça a un coût économique parce qu'en fait le temps passé plus longtemps dans sa voiture, et ben ça vaut 1,150 milliard.
Voilà,
donc
alors,
ça coûte plus cher que...
Vous avez raison, Sandra. En revanche, c'est un coût brut, c'est pas un coût net. C'est-à-dire on ne regarde pas les économies de carburant, pas suffisamment. Et c'est quand même des importations, le pétrole pour l'instant. Et vivement d'ailleurs, lorsqu'on aura des camions électriques ou à hydrogène... le problème sera très différent. On n'aura plus besoin d'économiser ces tonnes de carbone. Donc, de ce fait, l'étude tout à fait sérieuse du CGDD, elle fait pas les coûts. Elle ne comprend pas les coûts du réchauffement climatique sur les coûts des émissions de carbone. Parce que si on les élimine pas sur la route, vous savez, c'est quand même près de 20% des émissions françaises, il faudra taper ailleurs.
Lorsque vous avez, il y a aussi le problème de l'extension ou pas des aéroports. Enfin, il y a des questions qui sont, moi, j'ai pris celles qui ont été le plus économiques. Laurence Iliana, pardonnez-moi, mais on est sur BFM Business. Est-ce que pour vous, vous entendez un petit peu la critique du patronat qui dit mais ça n'a pas été chiffré en fait le coût que ça peut à voir.
Il y a des choses qui ont été chiffrées parce qu'il y avait la capacité de le faire. Il y avait des choses où manifestement ça était le cas. Et je voudrais rappeler d'ailleurs que tout ce qu'on a appelé les propositions sur le financement n'ont pas été des propositions qui ont été votées sérieusement une par une. Oui. C'est tout simplement des pistes de réflexion et ça ne figure pas d'ailleurs au même titre. Ça ne fait pas partie des 150 mesures. Alors il y a des choses qui ont été chiffrées, notamment l'investissement dans le ferroviaire par exemple. Les Français qui étaient là autour de nous, ces citoyens, ils pensent que le train devrait avoir une place beaucoup plus grande et dans le transport des personnes et dans le transport des marchandises. Raisonnable quand même.
Oui, mais justement, c'est ce qui a été décidé avec le fait qu'Air France ne pourra plus assurer les lignes domestiques.
Ça, ça me paraît aller dans le bon sens.
Pour des trajets, entre guillemets, courts.
Oui. Voilà, ça me paraît dans le bon sens et dans la bonne direction. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils proposaient une égalité devant l'impôt du trafic aérien. Mais c'est aussi 20 millions de logements à rénover. Ça, c'est un fantastique
gisement.
Et voilà. Et là, en plus, c'est des filières qui pourraient être totalement locales. Il faut réorganiser, il faut organiser le système financier qui va avec, parce que ces investissements sont très lourds et ils peuvent être étalés, il faut pouvoir les étaler sur longtemps. Et là, il y a une... Et d'ailleurs, je vois que beaucoup d'entreprises se réjouissent de ce, marché. Oui. C'est vrai aussi sur l'agriculture, c'est vrai aussi sur les voitures. Vous savez, quand même, regardons où en sera le marché automobile dans 10 ans. Voiture électrique, autant y aller le plus vite possible.
À condition qu'il y ait des prises.
Voilà, des prises.
Je vais dire,
et alors, ils disent quelque chose de, je trouve...
La citoyenne que je suis, vous dit, il n'y a pas encore de prise. On vous dit, c'est obligatoire. Oui, mais enfin, pour l'instant, on les a pas. Hein.
Donc, poulet l'œuf, il nous faut des voitures électriques, il nous faut les prises. Et ce qu'il y a eu de formidable, les citoyens ont dit, bon, c'est très bien la voiture électrique, ok, ils ont regardé le bilan carbone, tout ça, mais ils ont dit, les plus pauvres ne peuvent pas. Faisons un leasing bon marché pour les ménages les plus modestes. Bon.
Oui, raisonnable, très pratique.
Très bien.
Bah, en tous les cas, résultat des courses, ça sera lundi prochain, Laurence Dubiana.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc la coprésidente de cette convention citoyenne pour le climat, avec donc, on l'a compris, de nombreuses propositions, mais qui ne sont pas si irréalistes que ça.
Non, c'est pas idéologique.
Voilà,
du tout.
Pas du tout idéologique, ça c'est très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on file au MK2 dans la bibliothèque, grande bibliothèque, où nous attend Nathanaël Karmitz. Il est président du directoire du groupe MK2. Vous savez, ça y est, les salles de cinéma, elles sont plus si obscures que ça. Elles rouvrent aujourd'hui.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Déconfinement, acte 3, ça y est, on peut aller au cinéma. On est en direct du MK2 Bibliothèque dans le 13e arrondissement avec Nathanaël Karmitz. Bonjour Nathanaël, merci d'être avec nous, le président donc du directoire du groupe MK2. J'imagine que vous avez une forme de sourire, pas complètement, mais une forme de sourire.
Non, il est tout à fait là, le sourire, il est même assez complet. On est effectivement ravis de rouvrir et les spectateurs sont là depuis ce matin 9h, donc on est plutôt ravis.
Ça fait quoi, 100 jours que vous étiez fermé, donc un coût quand même très important pour toute la filière du cinéma. On parle de 400 millions, c'est grosso modo 60 millions d'entrées perdues. Là, qu'est-ce que vous attendez de ces jours? Et puis surtout, il y a quand même un protocole sanitaire qui est assez fort, même très fort, même si le ministre de la Culture l'a allégé ce week-end.
Déjà, vous l'avez dit, 100 jours, c'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma. Même pendant la guerre, les cinémas n'ont pas fermé autant. Donc on est surtout ravis de rallumer la lumière et de permettre aux spectateurs de revenir en salle. C'est signe que la vie reprend. Effectivement, la première préoccupation était ce protocole sanitaire. Il fait plus de 20 pages. Il a été déterminé depuis, il y a déjà près d'un mois, par l'ensemble des représentants de l'exploitation cinématographique. Donc on va retrouver un parcours complet sans contact. Il y a du gel hydroalcoolique. Vous pouvez aller jusqu'à votre place de cinéma sans avoir à toucher aucune surface. Le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Vous laissez par groupe, vous pouvez venir à deux ou à plusieurs, mais vous laissez un siège d'écart entre chaque groupe. Donc ça permet de retrouver, pas encore complètement, mais une presque sensation de rire et pleurer ensemble, ce qui est pour moi la fonction principale du cinéma.
Alors, en même temps, vous dites sans contact, c'est-à-dire qu'il faudra aller sur l'application MK2 pour réserver. Il n'y a pas une seule application, si jamais, pardonnez-moi, mais si on veut aller dans une salle Gaumont ou autre, ou un cinéma d'arrêt d'essai, chaque exploitant de cinéma a sa propre application.
Oui, tout à fait. Chaque exploitant a sa propre application. Néanmoins, si vous n'êtes pas familier des technologies ou si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi effectivement réserver soit aux bornes ou évidemment en caisse avec un personnel qui a été formé, qui est masqué avec le plexi. Vous pouvez aussi prendre la confiserie avec les mêmes normes que vous avez dans la restauration ou dans la distribution. Il y a des gants à disposition, etc. Donc, a priori, vous avez un parcours qui est tout à fait sécurisé pour venir au cinéma. L'air est très régulièrement renouvelé complètement avec de l'air neuf à l'extérieur. Et donc, on va dire que c'est plus rassurant quelque part d'aller au cinéma que de prendre les transports en commun ou que de prendre le train où la distanciation a été supprimée.
Oui, ou faire la fête de la musique hier soir, tous entassés les uns sur les autres. Hein, tant qu'à faire, autant aller dans le cinéma. Il faut dire qu'il y en avait qui sont déjà depuis ce matin, qui étaient les premiers à revenir dans les salles obscures, comme on dit, Nathalie Carminis. Combien de temps allez-vous mettre pour vous remettre de ce confinement qui fait que vous avez dû fermer vos salles?
Bah écoutez, les premiers chiffres sont excellents. Hein. Nous, on a fait plus de 300 personnes à cette première séance à 9h du matin, ce qui sont des chiffres pré-crise, on va dire. Oui. Après, tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir quand est-ce que la jauge va revenir à 100% et pas juste des espèces d'assouplissements où on peut séparer les gens d'une place sans avoir vraiment les jauges. Il faut que la normalité revienne, il faut avoir des perspectives sur cette normalité. C'est attendu aussi par l'ensemble des secteurs culturels. Je pense aux salles de spectacle, au théâtre, aux gens qui font des feux d'artifice. Il y a plein de secteurs de la culture aujourd'hui qui sont en attente de savoir comment ça va se passer dans le futur. En ce qui concerne le cinéma, on rouvre. On espère pouvoir avoir des bonnes nouvelles du côté du fonds sanitaire pour qu'on puisse revenir à la normale et à 100% très rapidement.
Mais justement, est-ce que vous avez donc les propos tenus par le ministre de la Culture, jeune confrère d'Europe 1, ça c'était samedi, en disant qu'on peut maintenant la norme des 50%, la jauge des 50%, elle saute. Vous avez eu la confirmation ou pas encore?
Alors c'est une annonce du dimanche matin avec un décret reçu ce matin à 9h. Donc nous pour l'instant on suit le protocole qui a été établi par l'ensemble du métier depuis un mois, à savoir les jauges à 50%. Une salle de 200 places reçoit 100 personnes. On fera sûrement évoluer en fonction de la situation au fur et à mesure, mais encore une fois c'est des choses qui se changent pas du jour au lendemain. Oui. Ça demande de la formation, ça demande du temps. Oui. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que les gens viennent en toute sécurité dans les salles de cinéma. C'est le cas dans toutes les salles de France, ça depuis ce matin, avec par ailleurs une très belle offre de films. Donc j'encourage déjà tout le monde à retenter cette belle expérience. Et ensuite, on fera évoluer les choses au fur et à mesure, mais de manière pragmatique et dans le temps et calmement.
Alors, une belle offre, oui, ça relativise quand même le poids d'un ministre. Hein. Il ne suffit pas qu'il parle, il faut que derrière, tous les services administratifs, toute la technocratie suivent. Hein. Vous avez raison de le souligner. Alors, Nathalie Carminis, qu'est-ce que vous proposez, MK2? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui vont revenir dans vos salles? Est-ce que c'est les films qui ont été interrompus? Est-ce qu'il y a des nouveaux films? Comment ça va se passer?
Alors vous avez trois types d'offres que vous allez retrouver dans vos cinémas. D'un côté, effectivement, les films qui se sont arrêtés à cause du confinement. Je pense par exemple à De Gaulle ou La Bonne Épouse qui reprennent l'affiche. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Il y a par exemple ici au MK2 Bibliothèque près de 8 films nouveaux avec une très grande diversité. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Il y a Béni, un film allemand qui a gagné le festival de Berlin qui prend l'affiche aujourd'hui. Il y a des films français. Il y a le documentaire de Thomas Piketty. Il y a un film familial sud-coréen. Donc il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Et par ailleurs, chaque salle fait des propositions de programmation. Nous, par exemple, on démarre un cycle qui s'appelle Black Film Matters pour répondre à l'actualité. Il y a beaucoup de films pour enfants, des belles reprises. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts et ça va s'étendre sur tout l'été puisque à partir de la semaine prochaine et tous les mercredis, on va retrouver 10 à 15 nouveautés par semaine avec vraiment une très grande et belle diversité de cinéma.
Donc, c'est à partir de la semaine prochaine, le 1er juillet, quoi, en juillet, que vous comptez que le rythme du cinéma avec les sorties le mercredi, les blockbusters américains qui arrivent, ça sera en fait en juillet.
Oui, alors encore une fois, ça commence aujourd'hui. Il y a déjà 8 nouveautés aujourd'hui. Ça reprend au fur et à mesure. Il y a beaucoup de films qui changent de date et qui se déplacent. Donc l'été se remplit. Effectivement, par contre, ça sera un été avec moins de blockbusters. Il y en a quand même. Hein. Il y a Tenet de Christopher Nolan qui arrive à la fin du mois. Il y a Mulan. Et par ailleurs, les dates, encore une fois, bougent beaucoup parce qu'elles dépendent aussi des situations sanitaires dans d'autres pays dans le monde. Mais ça sera un bel été de cinéma, un été très divers. Il y a beaucoup de grands films français. Je pense à Été 85 de François Ozon. Il y a plein de comédies comédies françaises qui arrivent, beaucoup de films du monde entier, donc une vraie grande et belle diversité qui donne normalement de nature à satisfaire tous les cinéphiles.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous chez Carmine, chez MK2, ce confinement, cette crise sanitaire notamment? Est-ce que, bah, par exemple, vous allez plus facilement travailler avec les plateformes, avec Netflix ou d'autres? Parce que vous êtes exploitant et producteur.
Alors nous, effectivement, on a été très... Tout à fait, nous on a été très actifs pendant ce confinement. Il y a eu effectivement la présence d'un bout de notre catalogue qui a été présenté sur Netflix avec Truffaut, Jacques Demy, Lynch et bien d'autres, qui a rencontré un formidable succès, je pense, à aider les cinéphiles à tenir pendant cette période. On avait également lancé une chaîne de streaming gratuite qui s'appelle MK2 Curiosity, qui du coup continue et va continuer post confinement. Et là vous allez retrouver aussi en salle une autre de nos initiatives qui était un concours du court-métrage confiné. On a reçu près de 650 films et un certain nombre des lauréats qui ont une durée inférieure à 5 minutes sont présentés en avant-séance dans toutes nos salles pendant cette semaine des réouvertures.
Il y aura un vrai changement, hein, malgré tout, on est d'accord?
Oui et non, parce que la présence des plateformes de streaming pendant cette période était finalement un parcours obligatoire. Le numérique reste le grand gagnant à tous les niveaux de cette crise. Néanmoins, ce que ça a démontré aussi, c'est que les gens ont un besoin de vie, ont besoin de sortir, ont besoin d'aller boire des verres, ils ont besoin d'aller au cinéma. Et au bout d'un moment, le canapé c'est bien, mais on a envie de sortir, on a envie de rire et pleurer, on a envie d'aller en couple au cinéma, on a envie de se rouler des pelles dans le noir, on a envie de tout ça.
Et donc
nos fonctions d'êtres sociaux.
Le cinéma vu par Nathanaël Kermitz, c'est se rouler des pelles dans le noir. Juste dernière question, malgré tout, est-ce que le festival de Cannes tel qu'il existait avec toutes ses paillettes et tout, est-ce que c'est maintenant du passé?
Alors non, pas du tout. On espère bien qu'il va recommencer l'année prochaine. Le festival de Cannes aujourd'hui commence aussi le... J'espère pas. C'est important, les paillettes, le fast. Le cinéma, c'est une fête. Et on espère. Le festival de Cannes est un événement qui, pour la France et pour le cinéma, est un des événements les plus importants dans le monde. Le festival a décerné ses labels qui vont permettre au public et aux professionnels du monde entier d'avoir un guide, un label pour indiquer la sélection cannoise. Aujourd'hui même commence en ligne le marché du film du festival de Cannes, qui est un des marchés les plus importants au monde. Donc, on espère que ça. Enfin, c'est pas on espère, ça n'est qu'une petite parenthèse, et on retrouve le festival de Cannes l'année prochaine, évidemment si les conditions sanitaires le permettent, mais on l'espère avec les paillettes, le tapis rouge, les grands films, les émotions, les satisfactions et les déceptions, tout ce qui fait la vie d'un beau festival.
Et les baisers dans le noir. Toute dernière question, l'Espagne, ça se passe comment? Parce que vous avez 12 salles de cinéma en Espagne, comment ça se passe? C'est réouvert?
Alors écoutez, c'est là où on voit aussi un peu les différences. En Espagne, il y a eu un peu moins de soutien qu'en France, mais il y en a eu quand même. Ouais. Les salles de cinéma commencent à rouvrir. Elles rouvrent en ordre dispersé, contrairement à la France où toutes les salles de cinéma ouvrent aujourd'hui. Nous, on va commencer par exemple à rouvrir nos salles à partir de vendredi. Mais là, ça dépend des régions, ça dépend des villes, avec des jauges à 50%. Mais le cinéma en Espagne, et comme dans toute l'Europe, reprend. Et a priori, toute l'Europe aura repris d'ici début juillet. Et on ne peut qu'en se réjouir, parce que le cinéma, c'est une industrie. C'est des distributeurs, c'est des producteurs, c'est des vendeurs. Et donc, on a besoin d'une vraie Europe qui fonctionne pour les salles de cinéma pour que l'ensemble de l'industrie puisse reprendre.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. On vous rend à vos téléspectateurs, c'est l'habitude, qui ont enfin rejoint MK2. Merci beaucoup, Nathalie Carmes, d'avoir été avec nous en direct donc du MK2 Bibliothèque dans le 13e arrondissement avec Olivier Mélan. Dans un instant, il est déjà en studio avec moi, c'est l'essayiste économiste Alain Minc.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est essayiste économiste Alain Minc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous publiez. Je crois que c'est votre... Il y a les 40e rugissant, vous, c'est vos 40e livre que vous publiez.
Il paraît, oui. Ouais.
Mais président, alors c'était... Il peut sort
mais,
là,
mais... entre guillemets. Hein.
Voilà, c'est son même. Mais c'est vos présidents, avec des phrases qui sont assez bien ciselées. On va y revenir. Juste quand même sur la... Puisque je recevais Laurence Dubiana, qui était la présidente, co-présidente de cette Convention citoyenne pour le climat. Ces propositions, j'imagine... que vous avez quand même un peu regardé. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est réaliste? Et puis surtout, une question plus politique, est-ce qu'un référendum, en ce moment, c'est une bonne idée? pour Emmanuel Macron.
Je ne sais plus si c'est dans le CID, ne mériter ni cet accès d'honneur, ni cette indignité.
Absolument.
Je trouve qu'on a fait de ça un moment de démocratie nouvelle, comme si les mécanismes de la démocratie classique ne pouvaient pas fonctionner. N'exagérons pas. À l'inverse, il n'y a pas beaucoup de bêtises qui ont été dites, sauf que les additions n'ont pas été faites. Donc, ça participe un peu de la pédagogie globale. Un référendum à une question me paraîtrait aberrant. Un référendum à QCM, c'est un sondage élargi aux mesures de la France.
En plus, pour le coup, je pense que c'est anticonstitutionnel.
Je trouve que tout ça est un peu décalé par rapport aux enjeux actuels qui sont les nôtres, qui est quand même de sortir d'une crise où on a perdu autour de 10% de notre PIB. Et qu'il y a un peu de naïveté et de diversion, me semble-t-il.
Oui, en même temps, oui, parce que vous dites qu'il faut rapiécer le pays. Ce mot rapiécer, je trouve que c'est assez fort. On va voir ça tout de suite à la main, mais quand même, on voit, dans le cadre des élections municipales, on voit quand même que les Verts arrivent dans des villes où on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent en tête. Donc, il y a quand même, les citoyens ont envie que ça... mais ça veut dire qu'il y a un besoin d'écologie.
Non, mais l'aspiration écologique, c'est une évidence. D'ailleurs, elle arrive à faire son chemin à travers les voies normales de la démocratie. Si un certain nombre de très grandes villes basculent du côté des écologistes, c'est un choix profond et démocratique. Je ne suis pas sûr que les cheminements tels que les conventions citoyennes répondent mieux à cette aspiration que cette bonne vieille méthode qui s'appelle le vote démocratique.
Oui, c'est justement, mais vous voyez bien, regardez le taux d'abstention au premier tour. Alors, venir dans un cas particulier, on est bien d'accord, mais pas que. Cette voie normale de la démocratie qui s'appelle le vote, les Français, visiblement, ils n'y croient plus.
Non, mais parce qu'on ne leur dit pas les choses. Le taux d'abstention, peut-être, mais 45% ont voté dans des conditions qui étaient abracadabrantesques. Je l'espère davantage dimanche prochain, je préfère 50% de votants démocratiquement à cette immense machine pour aboutir à la vie, certes rendue raisonnable par le nombre d'experts qui a gravité autour d'eux, de 150 citoyens. Donc la vraie démonstration de l'aspiration écologique, elle est dans le scrutin de dimanche, qui en effet va montrer une vague d'une ampleur plus ou moins grande, mais qui montre que c'est un sujet fondamental des prochaines années. Mais vive la bonne et vieille démocratie.
Oui, mais comme vous rappelez toujours la phrase de Churchill. Alors, on va y revenir. D'abord, je voudrais quand même qu'on s'interroge un peu comment vous connaissez la plupart des grands patrons. Vous les voyez, les côtoyez, vous les conseillez. Parfois un peu trop, du reste, on peut s'interroger. Comment est-ce qu'on peut empêcher le pire, là, lorsque vous voyez, ça y est, Air France, Renault, chaque jour apporte un nouveau plan social. BFM, Nokia.
Non, attendez. Ce qui me surprend, au bon sens du terme, comme beaucoup de gens, c'est qu'on était tous convaincus que la reprise serait très flagellante jusqu'au moment où il y aurait ou un vaccin ou un traitement. Et en réalité, elle est plus rapide que prévu. Pourquoi ? Pour une raison tout à fait simple, c'est que le virus, au moins en France, a décidé d'hiberner en été, si je puis dire. Et donc que la peur, pour l'instant, a disparu. Donc la reprise n'est pas mauvaise. Qu'il va y avoir, et vous citez évidemment des cas qui sont très différents. Le transport aérien est endommagé dans des proportions dramatiques et considérables. Nokia Lucent, ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'au contraire, ils sont dans une des activités qui a le plus profité du confinement et de la crise. C'est tout simplement le résultat d'une histoire dramatique qui a vu en 25 ans un fleuron mondial d'origine française disparaître. Donc, il ne faut pas... l'agrégation sociale, elle est là, évidemment.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, chacun a des explications différentes.
L'agrégation sociale est là. Je crois que la réponse par l'adaptation du chômage partiel est une réponse raisonnable, mais évidemment qu'il va y avoir des pots cassés. On ne supprime pas 10% du PIB d'un pays sans qu'il se passe quelque chose. Et ceci nous ramène au point de départ de tout ça. Au fond, je veux dire, il faudra, et on y passera des années, réfléchir sur ce qui s'est passé dans nos têtes à tous.
Je veux dire, ça veut dire
10%,
quoi
10%, parce que je pense que très profondément, nous avons choisi d'éviter des morts visibles aux dépens de morts invisibles. 10% du PIB des pays riches, c'est 15% du commerce extérieur, c'est 30 ou 40% des budgets des pays pauvres. Ce sont des centaines de milliers de morts qu'on ne voit pas en réalité parce qu'ils ne sont pas sous notre œil. Donc, je ne dis pas qu'il ne fallait pas confiner. Je dis que nous ne mesurons pas les dégâts que nous avons faits à cette occasion, pas seulement au cœur des pays riches.
Oui, pas seulement parce qu'il y a tous les sous-traitants, qu'ils soient indiens, africains...
Mais bien sûr, et là, on ne voit rien. Mais les dégâts sont gigantesques, et humainement. Et ce sont des vies qui ont disparu. Donc, je veux dire, pourquoi on a confiné ? Je pense profondément... que si ça n'avait pas été les Chinois, par exemple les Japonais, je ne suis pas sûr qu'on leur ait fait de la même manière. Les Chinois, on les craint et on les admire. Et on pense que si les Chinois prennent une mesure de ce type, personne ne peut y échapper. Qui aurait pu arrêter cette espèce de course à l'abîme en disant « on confine avec plus de modération » ? Seul le chef du monde libre, c'est-à-dire le président des États-Unis.
Oui,
mais ça supposait un président des États-Unis crédible. Le pire de cette affaire, c'est que Donald Trump a dit une phrase juste. Il a dit « le remède peut être pire que le mal ». Mais la phrase venant de lui était par nature décrédibilisée et chaque jour qui passe ajoute à cette décrédibilisation.
Et puis surtout, c'est qu'on voit bien que les pays qui s'en sont sortis, notamment la Corée du Sud, c'est sûr qu'on ne s'est pas dit que l'exemple à suivre était la Corée du Sud.
Non, on a dit la Chine.
On a dit la Chine, absolument.
Parce que personne n'avait la force de dire on va suivre, essayer de suivre. On n'était pas prêts. La petite Corée face à la grande Chine.
Oui, absolument. Cela dit, maintenant, on fait quoi ? Est-ce que vous pensez que... Comment fait-on pour rapiécer ? Je reprends toujours votre expression parce que je trouve qu'elle est assez bonne. Comment fait-on pour apaiser ? Et puis après, il faut quand même des perspectives. D'abord, il y a encore deux ans avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il a dit que c'est des deux ans utiles. Ce matin, je recevais Jean Pisani-Ferry qui a fait son programme 2017 qui disait qu'il ne faut surtout pas perdre deux ans. Comment fait-on pour combiner les deux, quoi, à la main ?
Bon, d'abord, si ce que nous vivons n'est pas la crise de 29, j'ai jamais aimé cette comparaison, c'est parce que les gouvernements et les banques centrales ont vraiment fait le boulot. Et que si en 1930, le même boulot avait été fait, on aurait peut-être évité l'engrenage fatal qui conduit à Hitler. Donc la première réponse, elle est macroéconomique. C'est la création monétaire sans limite par les banques centrales. C'est le plan de relance européen. C'est le pas en avant quand même très considérable qui est la redistribution entre Européens. C'est ça la première réponse. Ensuite, il va falloir continuer à dépenser de l'argent pour empêcher des tas de boîtes, et en particulier de taille moyenne, de mourir. Parce que qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps ? On a assuré leur liquidité. On n'a pas assuré leur solidité financière. Bon, c'est l'urgence absolue. Les autres réformes viennent par surcroît.
Oui, alors vous dites il faut des signaux assez forts. Il faut quoi comme signaux ? J'imagine... On a bien vu le rôle des maires, l'importance du local qui a joué un rôle clé. Est-ce qu'il faut plus de décentralisation ? Est-ce qu'il faut enfin, parce qu'on en parle depuis je ne sais pas combien de temps.
Non, mais je crois qu'il y a eu dans cette période deux France. Il y a eu une France incroyablement tonique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Exemple de la France tonique, les grandes entreprises de distribution qui ont maintenu la chaîne alimentaire, ce qui était incroyablement difficile, avec 30% des volumes qui bougeaient. Et exemple, les services de réanimation et le monde hospitalier. Et puis il y a eu l'autre France, qui a été la France de la bureaucratisation, de la réglementation, qui a atteint des proportions hallucinantes. Ouais. Quand vous avez eu en main le protocole sanitaire envoyé au directeur des écoles, je ne sais plus combien, 60 pages. Le protocole sanitaire pour les transports scolaires, le protocole sanitaire pour les cinémas. Vous croyez que je regardais sur votre chaîne tout à l'heure Nathaël Carmis. Ouais. Vous croyez que Nathaël Carmis, qui est un garçon que je connais depuis longtemps, très intelligent, très raisonnable, il fallait lui faire 20 pages pour qu'il prenne les mesures.
Après, vous avez des questions.
Et ça m'amène à votre...
Ça peut vous conduire au pénal.
Le choix de la décentralisation n'est plus un choix idéologique, il devient un choix de survie. On ne peut pas fonctionner en termes de réglementation comme on l'a fait pendant le confinement. Ça n'est plus possible.
Et est-ce que oui, mais donc comment faire, parce qu'il faut changer tous les, enfin pas tous, pas tomber non plus dans l'exagération, mais il faut changer le logiciel de beaucoup de techno, d'énarques. Faut vraiment qu'il y a autre chose, il y a une autre musique.
Permettez-moi de tenir un propos qui est incorrect. Chacun sait dans l'État que l'administration de la santé est la plus mauvaise administration de l'État. On peut ne pas aimer le classement de l'ENA, je la comprends très bien. 75 ans à ce que les derniers du classement choisissent le ministère de la Santé, c'est difficile d'imaginer que ça n'a pas quelques conséquences. Toute personne qui a affaire à cette administration sait qu'elle se protège. S'ajoute à ça un problème qui va très au-delà du ministère de la Santé et qui est un drame qui est en train de naître en France, qui est la judiciarisation de l'action politique. C'est-à-dire que c'est le seul pays où les hommes politiques et les hauts fonctionnaires vivent sous la menace des juges pour ce qu'ils font dans l'exercice normal de la responsabilité.
Oui, mais en même temps, c'est un peu normal qu'ils rendent des comptes.
Non, mais rendent des comptes. Tout le monde rende des comptes. Vous croyez que l'Allemagne n'est pas une démocratie aussi avancée que la nôtre ? Vous croyez que le Royaume-Uni ne l'est pas ? Nulle part, il y a cette espèce d'alliance, pulsion populiste entre un désir de pignon et une justice aux aguets trop heureuse de se précipiter pour faire la leçon à la classe politique.
Pourquoi dites-vous que l'élection 2022 sera sans doute l'élection la plus risquée de l'histoire de la Ve République ?
Pour une raison très simple, je crois qu'un de vos collègues sort ce matin un sondage qui montre un très bon premier tour pour Emmanuel Macron, qui montre que sa base existe, et qui montre un deuxième tour où il bat Marine Le Pen 55-45. Quel est le risque ? Quand Jean-Marie Le Pen se trouve face à Jacques Chirac, entre le premier et le deuxième tour, il gagne 1%. Quand Marine Le Pen se trouve face à Emmanuel Macron, elle passe de 20 à 34. Les 34, ils viennent bien de quelque part. Quand je vois les sondages d'aujourd'hui, elle passe de 34 à 45. On entre dans la zone dangereuse, c'est-à-dire qu'on va vivre une élection où la pression populiste risque d'être extrêmement forte.
Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas changer notre démocratie ? Vous vous dites... Non, la Ve République a montré, là, avec les crises successives, à comprendre, que ce soit Sarkozy, François Hollande, ou là, Emmanuel Macron, que finalement, elle résistait bien aux crises économiques, aux crises sociales.
Mais je crois que la Ve République, et ça n'était pas dans l'esprit au départ de ses rédacteurs, a eu l'intelligence d'avoir plusieurs régimes en un. On en a connu deux et on risque d'en connaître un troisième. Premier régime, le pouvoir vertical, gaullien, totalitaire, où l'Assemblée est de la même couleur que le président. Deuxième régime qu'on a connu, la cohabitation, la nécessité d'un compromis entre ces deux pouvoirs. Troisième situation qu'on risque de connaître si, comme je le souhaite, Emmanuel Macron est réélu. Il n'aura pas une majorité absolue en marche. Donc il sera obligé de faire une coalition. Une coalition, c'est pas simplement rajouter trois députés.
Oui, comme ça se passe dans les municipales.
Comme ça se passe dans les municipales, comme ça se passe dans la plupart des grands pays. Et je pense donc que la flexibilité de nos institutions fait qu'il faut y toucher uniquement avec la main qui tremble.
Tiens, je fais juste une petite incise, parce que vous dites, après on va voir que quand même entre le général de Gaulle, et vous le racontez très bien du reste, et Emmanuel Macron, on n'est pas du tout dans la même époque. Hein. Mais juste sur Jacques Chirac, vous dites qu'il en fait il était persuadé de ne laisser aucune trace dans l'histoire. Et en même temps, lorsqu'on voit l'émotion qu'a soulevé l'annonce de sa mort, on se dit qu'il laisse une trace dans l'histoire, peut-être pas dans l'histoire économique, bon, mais en tous les cas, dans l'histoire politique.
J'ai appelé mon chapitre sur Jacques Chirac le hussard nihiliste. Ouais. Il y avait chez Jacques Chirac une part de nihilisme, de relativisme qui était impressionnante.
Oui, et surtout sur lui-même.
Sur lui-même, avant tout, bien sûr.
Bien sûr.
Ce qui est assez rare dans cette espèce de ménagerie humaine où il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font l'histoire.
En même temps, on voit bien que la Ve République, alors il s'est passé quand même quelques décennies, mais entre le général de Gaulle, alors vous dites, vous ne savez même pas où était son téléphone, elle était cachée sous sa cage d'escalier ou je ne sais plus trop quoi, et puis Emmanuel Macron qui vit complètement sous pression, et puis lui-même aussi hein, qui tweet, alors bon, évidemment il n'est pas encore Donald Trump, enfin on voit bien que les réseaux sociaux, il y a une espèce de dictature des réseaux sociaux, on n'est même pas dans le même régime, c'est presque bizarre que ça soit le même régime politique.
Non mais ce que vous dites pour nous vaut pour tous les pays, c'est la même constitution des États-Unis et ça n'est pas le même quotidien de la politique. Il en va de même de l'Allemagne. Bien sûr que l'action publique, sous le feu constant des réseaux sociaux et de vous, les chaînes d'infos, à mon avis, à certains égards, plus puissantes que les réseaux sociaux, changent la nature de l'acte politique et qui, en effet, vous l'avez dit, je vous en sais gré, qui vous crée une sacrée responsabilité.
Si on ne parle pas d'Emmanuel Macron, on sait que c'est quelqu'un que vous avez toujours soutenu, poussé, inspiré, etc. Quel est celui pour lequel vous avez une grande tendresse intellectuelle dans vos présidents?
Écoutez, un des deux que je n'ai pas connu, c'est-à-dire Georges Pompidou. Je pense que, qu'est-ce qui m'a toujours fasciné chez Georges Pompidou? Le même homme, en 1968, fait élire l'Assemblée parlementaire la plus réactionnaire depuis 1815. Et le même décide, un an après, l'architecture du centre Pompidou. C'est-à-dire une architecture pour l'époque bouleversante.
Provocante même.
Provocante. Et je suis toujours très sensible aux gens qui ont un compas large. Et là, je trouve que le compas était d'une largeur extrême.
Vous voyez quoi comme... peut-être comme prochain président, enfin comme personnalité? Vous voyez Emmanuel Macron, d'accord, mais Emmanuel Macron, il faudrait bien qu'il change.
Non, mais Emmanuel Macron...
Parce qu'il est coupé quand même un peu des Français.
Oh, écoutez, quelqu'un qui, dans un sondage de premier tour, fait ses 28%, il n'est pas si coupé de sa base. Le problème de
Mais quel réservoir?
Je vais revenir, si vous voulez. Revenons, vous vous souvenez sans doute que Valéry Giscard d'Estaing avait écrit un livre qui s'appelle « Deux Français sur trois ».
Oui.
C'est-à-dire, je veux avoir deux Français sur trois autour de moi pour faire la modernité, réformer, faire l'Europe. La réalité, c'est que sur un programme un peu équivalent, Emmanuel Macron a un Français sur trois. Alors, c'est beaucoup plus difficile de faire avec un Français sur trois ce qu'on rêvait de faire avec deux Français sur trois. Bien sûr, évidemment.
Oui, alors, justement, mais le problème d'Emmanuel Macron... C'est que d'abord, il lui reste encore 2 ans, il faut qu'il fasse quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque?
Même pas 2 ans.
Est-ce qu'il n'y a pas...
On va être, il nous reste un an et demi, hein, à partir de janvier 2022. Il ne se passe plus rien dans l'action publique.
Hein. Est-ce que vous ne redoutez pas, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de giscardisation d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire, donc c'est quelqu'un qui est arrivé jeune, avec sa jeunesse, son ambition, son énergie. Il a bougé les choses, il a libéré des choses. Et puis, in fine, ben, les Français sont revenus à un schéma beaucoup plus classique.
Où, vous savez, je l'ai dit, qu'il y avait un risque de giscardisation, qui est en effet le cas de tous les gens qui ont une espèce d'ascendant intellectuel et qui peuvent paraître, de ce point de vue, par rapport à une certaine partie du pays, décalée. Je crois que... Bien sûr qu'il est dans une situation... Moi, je crois que c'est pas ça qui me paraît le problème principal. Le problème principal, c'est qu'il va affronter les conséquences d'une crise extrêmement élevée. Donc, politiquement... C'est un contexte difficile. Je pense que c'est un contexte jouable. Je pense qu'il gagnera, et aussi pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit nulle part surgir le Macron de Macron. C'est-à-dire, on ne voit pas surgir une personnalité, disons, de l'espace démocratique, parce que j'espère quand même que le président sera issu de l'espace démocratique, qui soit en train de bousculer le jeu. On ne voit pas ça. Donc, je suis relativement optimiste.
Oui, en même temps, on voit bien que le goût aux réformes des Français est assez mesuré, malgré tout. Et on lui reproche les réformes qu'il a faites, et du reste, si ça se trouve, les deux principales réformes, enfin deux réformes, en tous les cas structurelles, qui étaient la réforme de la retraite et la réforme de l'assurance chômage, elles risquent de passer à la trappe, ou peut-être au moins d'être vraiment allégées.
C'est le même procès qu'on faisait Nicolas Sarkozy en disant après la crise de 2008, il n'a pas appliqué son programme de départ.
Mais il est même revenu dessus avec notamment
la réforme
le bouclier fiscal.
L'assurance chômage, qui était parfaitement justifiée quand on allait progressivement vers un plein emploi à la française.
Absolument.
N'est pas la réponse dans un pays qui va connaître quand même 5 millions.
Oui, mais quand vous faites une réforme, elle est structurelle, dépendre des aléas, aléas économiques.
Non. Pardon, quand vous faites une réforme de ce type, c'est une réforme de long terme qui peut faire des dégâts de court terme. Il y a suffisamment de dégâts dans la situation actuelle pour ne pas en rajouter. Je pense que la réforme des retraites, l'enjeu de la réforme des retraites demeure majeur. Aujourd'hui, ce qui est sur la table, ce n'est pas la réforme du régime de retraite, c'est son rééquilibrage financier. Il faut voir qu'on est dans une situation où l'urgence prend désormais le pas sur les mutations de long terme. J'espère qu'on reviendra assez vite à un niveau de croissance, qu'on effacera en 2 ans, 3 ans les 10% de perte du PIB pour commencer à repenser le long terme.
Toute dernière question à la main, que ce plan de relance là, que bon, certains économistes disent il faut qu'il commence tout de suite, enfin, on voit bien que même il y a le président du CPME, il y a le président du MEDEF dit c'est maintenant, et puis il y a d'autres, enfin, le ministre de l'économie qui dit ça sera en septembre, en octobre. Vous, un, vous dites est-ce qu'il faut le faire, il faut le lancer tout de suite?
Non.
Et deux, il faut qu'il soit axé sur 2-3 secteurs clés pour l'avenir de la France.
Non. D'abord, septembre et juillet, on ne peut pas dire que ce soit une différence de nature.
Ah ben il y a 3 mois, par le temps qui court, ça compte.
Non, mais la liquidité des entreprises a été faite d'une manière telle qu'on peut attendre septembre. Bon. On saura mieux ce dont on a besoin en ampleur. Alors, quant à ce plan, je veux dire, les plans sectoriels, ils ont eu lieu, on n'a pas arrêté d'en faire toutes les semaines. Il reste qu'il y a un problème pour moi, le plan sectoriel, ce sont la reconstitution des fonds propres des entreprises petites et moyennes qui ont un énorme trou comme un avion dans leur carlingue.
Ouais. Et là, on sait que le président il travaille justement une espèce de grande foncière où il y aura une transformation de ces prêts garantis par l'État en quasi-fonds propres. Mais ça, c'est.
Il y a mille moyens. Ouais. On peut faire que quand on veut faire des fonds propres, on sait les faire.
Merci et beaucoup. Et vous savez faire des présidents. Merci beaucoup, mes présidents, de Gaulle à Macron. Et c'est donc publié chez Grasset. Merci à la main d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. Nous, on se retrouve demain. Tiens, avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. À demain. Bonne journée.